Iman.
Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal et on voici tout de suite le sommaire. Amnesty International et les avocats de la défense de la journaliste Sandra Muhoza, condamnée à 4 ans de prison, réclament sa libération puisqu'ils estiment que cette sentence est sans fondement. Et le président de la République a réaffirmé la nécessité d'une réforme du système éducatif burundais. C'était ce mercredi à l'occasion de la présentation d'un ouvrage collectif publié sous le titre « Une nation en marche ». Et plus de 40 maisons de la commune Kayanza doivent être réhabilitées dans un délai ne dépassant pas une semaine afin de prévenir des accidents. Nous appellerons notre correspondant pour cela. Voilà pour le sommaire.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Le président de la République déclare avoir donné l'aval au ministre en charge de l'éducation nationale d'initier une réforme du système éducatif burundais, cela depuis son accession à la tête du pays, mais regrette que rien n'a encore été fait. Il l'a dit ce mercredi lors de la présentation d'un ouvrage collectif écrit par 5 intellectuels burundais sous le titre « Une nation en marche ». Certains participants à cette cérémonie ont réaffirmé la nécessité de cette réforme pour que le pays s'achemine vers le développement durable. On fait le point avec Evariste Nzikobanyanga.
Le professeur d'université, Léonidas Ndayizeye, est parmi ceux qui demandent la réforme de l'éducation burundaise. Dans le cas contraire, l'ambition du développement durable Burundi sera vouée à l'échec.
Et pour le moment, je dirige la Commission nationale de l'enseignement supérieur au Burundi. L'aspect éducation m'intéresse au plus haut niveau. On l'a déjà dit, certainement que d'autres vont le dire, on ne peut pas se développer si on ne développe pas un secteur éducatif de très très bonne qualité.
Le président de la République dit ne pas comprendre pourquoi cette réforme n'a pas encore eu lieu jusqu'à l'heure qu'il est, arguant qu'il a donné feu vert à cette réforme depuis qu'il est à la tête du gouvernement, mais en vain.
Quand j'ai commencé mes fonctions, c'était la première chose, réforme éducative, demandée à Gaspard, même le ministre d'aujourd'hui, c'est la première instruction que j'ai donnée, mais on ne fait pas. Pourquoi poser cette question? Pourquoi? Professeur Leonidas, posez-vous cette question dans la commission-là. Pourquoi ça ne se fait pas? Parce qu'il y a résistance. On veut rester toujours dans les vices du passé. Non, nous devons corriger. Le second piège, c'est le néocolonialisme. Quand on fait des réformes, il y a quelqu'un qui va dire « Non, les Blancs ne vont pas accepter cela. »
Cela étant au moment où même les syndicalistes du secteur de l'éducation ayant demandé cette réforme en 2022 lors des états généraux organisés en mairie de Bujumbura ou revenir sur l'ancien système.
Évariste Nzikobanyanga, le président du parti MSP Inkinzo demande à la commission Vérité et Réconciliation de mener des enquêtes sur la mort du premier ministre Pierre Ngendandoumwe, assassiné le 15 janvier en 1965 du temps de la monarchie. Juma Omar Ichoyitungiye a déclaré que Pierre Ngendandoumwe se distinguait par sa volonté de réconcilier les Burundais sans aucune discrimination ethnique et peut donc servir de modèle aux dirigeants actuels du pays. Suivez-le.
Le parti MSP Inkinzo Jambo Jabarun, prône dans son idéologie la bravoure, l'unité et l'amour de la patrie de deux illustres personnalités, le prince Louis Gwagasore et le premier ministre Pierre Ngendandoumwe. C'est pour cette raison que le parti MSP Inkinzo commémore chaque 15 janvier de l'année l'anniversaire de l'assassinat du premier ministre Pierre Ngendandoumwe. Sa Majesté, le roi Mwambutsa IV Bangiritsheng, lui avait placé confiance en deux périodes différentes, le 18 juillet en 1963, après la chute du gouvernement de Muhigwa André, et le 17 janvier en 1965, après la chute du gouvernement Albi Nyamoya. Le premier ministre Pierre Ngendandoumwe était un compagnon de lutte pour l'indépendance du Burundi avec le prince Louis Gwagasore. Il a conduit le pays vers l'indépendance le 1er juillet en 1962. Le parti MSP Inkinzo demande avec insistance aux autorités compétentes, en l'occurrence à son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'honorer le mérite du Premier ministre Pierre Ngendandoumwe en lui conférant le titre de l'héros de l'unité nationale, comme le lui avait promis Sa Majesté le roi Mwambutsa IV. Ce titre lui a été retiré par la Première République du Burundi. Le parti MSP Inkinzo demande à la Commission Vérité et Réconciliation CVR de faire des enquêtes approfondies pour que la vérité soit établie et connue sur les commanditaires et les assassins du premier ministre Pierre Ngendahimwe. Cette ancienne période, dans 1965, nous rappelle à construire ou à bâtir le Burundi en mettant un gouvernement que tout le monde peut se sentir, c'est-à-dire maintenir la cohésion politique et sociale.
C'était Djuma Omar Ichoyitungiye, président du parti MSP Inkinzo. 4 ans de prison ferme et une amende de 200 000 francs burundais, c'est la condamnation du tribunal de grande instance de Ngozi à l'endroit de la journaliste Sandra Muhoza du journal en ligne La Nova pour atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Un de ses avocats conseille, maître Rémi Sabimana, trouve la sentence sans fondement et compte faire appel. Reporter sans frontières juge également cette peine arbitraire et demande sa libération immédiate. Apollinaire Monzagara.
La journaliste Sandra Muhoza a été signifiée ce 13 janvier de sa condamnation à 4 ans de prison ferme et d'une amende de 200 000 francs, une peine jugée trop sévère par maître Rémi Sabimana, un de ses avocats. Selon lui, échanger avec ses consoeurs et confrères journalistes dans un groupe WhatsApp ne constitue pas une infraction. D'où ses avocats envisagent interjeter appel à la cour d'appel d'Ngozi. Dans son communiqué, Reporters sans frontières dénonce une peine trop sévère à une journaliste qui n'a fait que partager un message sur un groupe WhatsApp. Selon Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF, cette peine est arbitraire. Les accusations d'atteinte à l'intégrité territoriale et d'aversion raciale ne constituent pas une infraction. Il demande par conséquent la libération immédiate de cette journaliste. Sandra Muhoza, la seule femme journaliste détenue actuellement en Afrique subsaharienne, vient de passer plus d'une année et 10 mois sous les verrous. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro.
Merci Apollinaire. D'autres nouvelles des provinces. Les nouveaux chefs de zone en fonction depuis 5 mois en commune de Bururi n'ont pas encore été payés et disent mener une vie pénible. Ces administratifs réclament leur salaire pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Ils ont formulé cette demande au cours d'une réunion organisée ce jeudi à Bururi par le gouverneur de la province Burunga, Parfait Mboninyibuka, leur demande de s'armer de patience, les rassurant que le gouvernement est à l'œuvre pour les rétablir dans leurs droits. Zénon Zambiman.
Au cours de cette réunion organisée ce jeudi à Bururi par le gouverneur de la province Burunga à l'intention des représentants de la population de la commune Bururi, certains des chefs de zone ont indiqué qu'ils sont au service de la population depuis 5 mois, mais déplorent qu'ils travaillent dans de mauvaises conditions puisqu'ils n'ont pas encore reçu leur salaire depuis leur recrutement. Certains disent qu'ils se retrouvent même dans les capacités de payer les tickets de transport pour participer aux différentes réunions organisées loin de leur lieu de travail, sans oublier que la communication avec les différents départements et services de la commune Bururi et les chefs culinaires qui ne sont pas eux aussi payés devient très difficile, sans frais et relatifs. Ces administratifs demandent leur salaire pour travailler dans de bonnes conditions et servir efficacement la population. À ce sujet, le gouverneur de la province Burunga, honorable Parfait Mboninyibuka, a appelé les chefs de zone à user de la patience, car cette question relative à leur salaire a été soulevée à maintes reprises au cours de différentes réunions, et le gouvernement est à l'œuvre pour qu'ils aient leur salaire, a-t-il insisté. Depuis la commune Bururi de la province Burunga, Zenon Zabima pour la radio Isanganiro.
Et l'administrateur de la commune Kayanza a identifié ce mercredi plus de 40 maisons, à majorité des boutiques et magasins, pour que leurs propriétaires puissent les réhabiliter dans un délai ne dépassant pas une semaine. Godefroy Nyonizigie fait savoir que l'idée derrière cette mesure est de prévenir des accidents après l'écroulement la semaine dernière d'un balcon d'une maison et qui a fait un mort et un blessé. Correspondance Patrick Saint-Guillaume.
En date du 9 janvier l'an courant, un incident s'est produit dans la ville de Kayanza où le balcon d'un magasin où l'on vendait des pagnes s'est effondré, causant la mort d'une personne et une autre qui a été blessée. C'est ainsi que l'après-midi de ce mercredi, l'administration communale Kayanza, en collaboration avec la police, a organisé une descente dans la ville de Kayanza afin d'inspecter les maisons de commerce présentant des problèmes comme déficits et d'autres imperfections. 44 maisons ont été marquées et leurs propriétaires ont été sommés de procéder aux travaux de réhabilitation dans un délai ne dépassant pas une semaine, selon l'administrateur communal Kayanza. Godefroy Nyonizigi, administrateur communal Kayanza, a fait savoir que ces mesures visent à prévenir d'autres accidents liés à l'effondrement de ces bâtiments mal entretenus, susceptibles de mettre la vie de la population en danger. Au cours de cette opération de l'après-midi de ce mercredi, des boissons fortement alcoolisées vendues illégalement dans des boutiques alimentaires ont été saisies également. L'administrateur communal Kayanza a précisé que les bâtiments marqués, qui ne seront pas réhabilités dans un délai d'une semaine, seront fermés par l'administration. Depuis Kayanza, dans la province de Butanyerera, Patrick Nsengimva pour la radio Isanganiro.
Dans l'actualité nationale, l'Assemblée nationale du Burundi a analysé et adopté ce jeudi un projet de loi portant sur la protection des données à caractère personnel, notamment celles liées aux cartes d'identité, permis de conduire, passeport, entre autres. Certains députés ont exprimé leurs inquiétudes, estimant que le Burundi ne disposerait pas de technologies adéquates pour conserver ces données en toute sécurité, sans risque de fuite vers l'extérieur. Ils ont rappelé que de tels systèmes sont généralement mis en place par des pays disposant de moyens technologiques avancés. Le ministre de l'Intérieur, Léonidas Ndarouzaniye, a rassuré qu'un centre national de données a déjà été mis en place pour assurer la protection et la gestion sécurisée de ces informations sensibles. Il a également indiqué que ce texte vise à combler le vide juridique existant en la matière, précisant que le droit positif burundais ne dispose actuellement ni d'un cadre légal ni d'un régime juridique régissant les opérations liées à la protection des données à caractère personnel. Suivez le ministre de l'Intérieur, Léonidas Ndarouzaniye.
L'objet de la présente loi est donc de combler l'absence de ce cadre légal. La présente loi sur la protection des données à caractère personnel organise divers régimes de protection et règle la question de l'ancrage institutionnel en créant une autorité administrative indépendante chargée de la mise en œuvre des régimes de protection. Il institue donc un organe chargé de la protection des données à caractère personnel placé sous l'autorité du ministère ayant l'économie numérique dans ses attributions. Enfin, le projet de loi prévoit des dispositions pénales spécifiques et qui ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales connues dans d'autres lois, notamment le code pénal et la loi portant prévention et répression de la cybercriminalité. Quant à la structure du projet de loi, il comprend 8 chapitres et 55 articles. Le chapitre 1er a trait à l'objet, au champ d'application et s'étend aux articles 1 à 4. Le chapitre 2 revient sur les conditions de traitement des données à caractère personnel. Ce chapitre s'étend de l'article 5 à l'article 16. Le chapitre 3 traite des droits des personnes eu égard au traitement des données à caractère personnel et comporte les articles 17 à 33. Le chapitre 4 est consacré aux obligations incombant aux responsables majeurs de traitement. Il comporte les articles 34 à 41. Le chapitre 5 parle de l'organe chargé de la protection des données à caractère personnel et de contrôle du traitement et comporte l'article 42. C'est l'article. Le chapitre 6 est consacré aux obligations incombant aux responsables de traitement des données à caractère personnel. Il comporte les articles de 43 à 46. Le chapitre 7 est dédié aux dispositions pénales. Il s'étend des articles 47 à 51. Et enfin, le chapitre 8 parle des dispositions transitoires et finales. Il s'étend des articles 52 à 55. Le gouvernement du Burundi, qui m'a mandaté pour vous présenter ce projet de loi, vous exhorte, honorable député, de bien vouloir l'adopter.
Sport à présent, c'est le jeu trop défensif qui aura coûté l'élimination de l'Égypte par le Sénégal lors du match de demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025 qui se déroule au Maroc selon l'analyse du responsable du département des arbitres au sein de la Fédération de football du Burundi FFB. Pour l'autre demi-finale qui a opposé le Nigeria au Maroc, Evariste Mourenguelanouari estime que les joueurs marocains ont fait valoir leur jeunesse pour éliminer le Nigeria. Il ajoute que le Maroc est le pays qui a le plus de chances de remporter ce trophée.
J'ai suivi les deux demi-finales hier dans la soirée. Et commençons par la première demi-finale qui a opposé le Sénégal à l'Égypte. J'ai vu un match dominé par l'équipe du Sénégal dans tous les compartiments. Une équipe du Sénégal soudée depuis le gardien jusqu'à l'attaque, mais aussi une équipe de l'Égypte qui n'a pas démérité, mais qui n'a pas beaucoup osé arriver dans la surface de réparation adverse. Ceci est dû à quoi ? Mon analyse est que le milieu de l'équipe d'Égypte n'a pas bien fonctionné. Brièvement, l'équipe dont le match a été dominé par l'équipe du Sénégal. C'est ça mon observation.
Et quelle est également votre observation sur le match qui a opposé le Super Eagles du Nigeria et le pays hôte, le Maroc?
C'était un match très attendu. Tout le monde pensait que l'équipe du Nigeria allait écraser le Maroc comme elle l'a fait lors du match qui les a opposés à l'Algérie. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que nous voyons l'équipe du Maroc bien organisée dans tous les compartiments. Et je crois que l'équipe du Nigeria est entrée sur le terrain avec beaucoup d'illusions. Et peut-être qu'ils avaient sous-estimé l'équipe du Maroc. Mais nous voyons l'équipe du Maroc qui a su sortir ses griffes et a causé beaucoup de tort à l'équipe du Nigeria. Et cela a permis que le match soit soldé sur un score de parité de 0-0. Et ils sont rentrés dans la phase des tirs au but. Et là, c'est la chance qui compte.
Et quelles sont les attentes pour la finale entre le pays hôte, le Maroc, et le Sénégal?
Nous allons assister à un bon match, mais un match plein de suspense. Parce que si on essaie de voir, la moyenne d'âge des joueurs du Maroc, ils sont plus jeunes que ceux du Sénégal. Et le Sénégal doit faire attention à son volet. Il faut faire attention. Nous remarquons beaucoup d'assauts de l'équipe du Maroc et qui pourraient faire la différence dès les premières minutes. Donc là, le Sénégal doit faire attention aux jeunes joueurs de l'équipe du Maroc.
Évariste Mourenguelanouari, c'est le responsable du département des arbitres au sein de la Fédération de football du Burundi, la FFB. Je précise que le match de la finale de la CAN édition 2025 opposera le Sénégal au Maroc. Ce sera dimanche prochain. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.
Jean Bosco, Douimane.